I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume l'actualité des jeux vidéo, des consoles, de l'industrie, du PC, de tout ce qui se passe autour de notre hobby. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'on avait prévu plein de choses super sympas, super intéressantes. Et puis il s'est passé tout ce qu'on sait aux États-Unis. Visiblement le pays et le monde avec lui se rendent compte que le racisme existe encore et se lance dans ce qui pourrait mener presque vers une guerre civile. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ces sujets, mais je voudrais quand même mentionner très rapidement le fait que on peut pas, c'est tout simple, hein, je peux juste pas ne rien dire du tout et commencer à parler de jeux vidéo super sympas, ça serait juste un petit peu bizarre. Donc juste pour dire que, sans partir dans les polémiques politiques, vous ne restez pas indifférent face à tout ce qui se passe, j'aimerais vous encourager à écouter des témoignages, et l'un des moyens de le faire, alors il y en a beaucoup, il y a plein de podcasteurs et de podcasts qui se sont mis à laisser la parole à des personnes qui ont été victimes de racisme systémique, et c'est aussi le cas d'une émission que je fais depuis bien longtemps, qui est en anglais malheureusement, qui s'appelle The Phileas Club. Alors je pense à tout ce qui est français aussi, ce qui se passe chez nous, etc., mais pour le moment, c'est The Phileas Club qui est une émission qui couvre, on va dire, l'actualité internationale depuis bien longtemps. Et dans le dernier épisode, qui a été publié lundi, j'ai parlé avec Gunner, qui est résident de Minneapolis, la ville où a été tué George Floyd, qui nous parle de son histoire, de sa ville, du contexte de tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller écouter ça. Ça s'appelle The Phileas Club, comme Phileas Fogg, et c'est le dernier épisode. Mais comme je le disais, il y a plein de ressources. Donc, vous pouvez aller regarder tout ça et écouter tout ça plutôt. Pour ce qui est du jeu vidéo, et ben c'est le rendez-vous jeu et on va essayer de parler de choses qui vont nous faire oublier nos soucis pendant un petit moment peut-être, même si vous allez le voir, la première partie est liée aux événements qui agitent les États-Unis en ce moment. Et puis évidemment, vous m'entendez moi et vous n'entendez personne d'autre parce que, comme je le disais, on avait plein de choses sympas et intéressantes et amusantes de prévues, mais étant donné ce qui s'est passé et les emplois du temps qui ont été chamboulés et des problèmes un petit peu plus personnels, et ben je suis tout seul pour cet épisode, donc je vais essayer de vous faire passer un bon moment tout seul. On va voir ce que ça donne. Avant de se lancer dans l'émission, et on va parler donc au niveau des jeux vidéo, des conséquences de tout ce qui se passe en ce moment, mais aussi de ce qu'on a pu apprendre sur la PlayStation 5, sur la rétrocompatibilité, sur des choses comme les rumeurs autour de Sega, des nouvelles pour GeForce Now. J'ai testé quelques jeux comme Minecraft Dungeons, Valorant, Total War, Iron Man VR. Je vais vous en parler un petit peu dans l'émission. Et puis, il y a plein d'autres petites news comme ça. Donc, on va quand même parler jeux vidéo, ne vous inquiétez pas. Et avant de se lancer, je voudrais quand même rappeler et remercier les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission. En l'occurrence, je remercie très 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 chaleureusement Marc Morin, Nicolas Nellis, Julien Longneau, Igor, Adrien Thomas, Alexandre Desjuan Mateo, Hugues Allard, Alexandre Mignon, Guillaume et Japa Seb. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisirent de soutenir l'émission. On en dira un tout petit peu plus en milieu d'épisode. C'est sur patreon.com/rdvjeux, hein, vous connaissez depuis le temps que vous écoutez. Alors, le gros sujet de cet épisode, ça va évidemment être les conséquences de ce qui se passe aux États-Unis. Je ris, mais c'est nerveux. Évidemment, avec les émeutes et l'occupation médiatique qu'ont ces problèmes, de nombreuses sociétés de jeux vidéo ont décidé de repousser leur présentation. C'est le cas notamment de Sony, qui devait enfin faire sa présentation de la PlayStation 5 aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc nous, on était censé enregistrer demain pour parler de tout ça. C'était un énorme événement, puisque c'était la première fois qu'on devait entendre parler précisément de ce qu'est la console elle-même. Alors, Dieu sait quand ça va réavoir lieu, peut-être la semaine prochaine, mais ça n'a pas l'air aux États-Unis de prendre le chemin d'un apaisement, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, il y a dans deux semaines The Last of Us 2 qui sort. Là encore, Dieu sait comment ça va se passer, mais étant donné que ça sort dans deux semaines, je ne sais pas s'ils vont vouloir faire leur grosse présentation PlayStation 5 au moment, la semaine de la sortie de leur plus gros jeu de la génération précédente. Peut-être que ça sera la semaine d'après qu'ils feront leur... Enfin bon, bref, on n'en sait rien. C'était la plus grosse de ces présentations, mais évidemment, il y en a eu d'autres qui leur ont emboîté le pas. On a vu que non seulement IGN, donc d'autres présentations, celle d'IGN, le Summer of Gaming, enfin leur partie du Summer of Gaming, le PC Gaming Show, le Futures Game Show, la présentation de Cyberpunk, toutes ces choses-là qui étaient censées avoir lieu maintenant, plus ou moins à la période de l'E3, de ce qui aurait dû être l'E3, et bien toutes ces choses-là ont été repoussées. Petite parenthèse, la BlizzCon a également été annulée et il y aura un événement en ligne sans doute en début d'année prochaine, et pas au moment de la BlizzCon elle-même, qui est en novembre d'habitude. C'est un petit peu surprenant parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils pouvaient facilement mettre ça en place, mais bon, bref, ça c'est une autre question. Mais donc, tous ces événements de début juin ont été décalés à... on ne sait pas quand, sans doute courant du mois de juin. Et il y a une autre conséquence, c'est que certaines des sociétés qui ont certains des jeux qui ont des saisons qui commencent tous les mois ou tous les deux mois, les nouvelles saisons ont été repoussées. C'est le cas de Fortnite, par exemple, ou de Call of Duty, qui ont repoussé la sortie des saisons parce que c'est un petit peu pas le moment. Un petit mot, justement, d'ailleurs, sur Call of Duty. C'est intéressant. Une des choses qu'on voit beaucoup, c'est des expressions de solidarité de grandes sociétés, jeux vidéo, tech. Et la réponse, au-delà du fait que la solidarité est certainement bonne à prendre, mais la réponse qu'on voit souvent, c'est « Ok, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que ce sont juste des mots que vous mettez sur Twitter pour faire un petit peu de marketing ou de la récupération ?» C'est une manière de le présenter qui est un peu forte, mais qui peut se comprendre. Activision a annoncé que pour Call of Duty, ils allaient sanctionner plus sévèrement les comportements racistes, qu'ils allaient renforcer leurs équipes de modération, qu'ils allaient revoir certains processus. Donc, je dirais que, évidemment, pour moi, quelque chose d'intéressant parce que, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que Activision résolve les problèmes de racisme dans le monde ou même dans la société. C'est un problème qui ne peut pas... Enfin bon, bref, c'est évidemment pas à eux qu'incombe cette responsabilité, même si on a tous notre part là-dedans, c'est évident. Par contre, ce qui est plus contrôlable par eux, c'est ce qui se passe dans leurs produits. Et je pense que c'est peut-être une piste à explorer, parce qu'on est tous un petit peu incertains de la manière dont on peut contribuer à arranger les choses ou à essayer d'arranger les choses. Et ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des questions de lobbying, de gestion de notre personnel, et j'entends par là l'inclusivité dans les sociétés elles-mêmes, il y a une autre piste qui est intéressante, c'est celle effectivement de tout cet aspect du produit et comment est-ce qu'ils gèrent ces problèmes-là dans leurs produits. Alors on en parle depuis très très longtemps, on parle de ces questions de modération qui sont compliquées à gérer et qui sont généralement pas assez bien gérées dans les jeux en ligne en particulier. certains diront ça fait tellement longtemps, pourquoi est-ce que vous ne vous y êtes pas intéressé avant ? Et d'autres diront ils vont s'y intéresser peut-être pendant 2 jours et puis s'en détourner, c'est possible aussi. Ce qui est sûr, c'est que dans l'idée, ça me semble être la bonne attitude à adopter, l'idée de se dire bon, ok, il y a une sorte de énième prise de conscience, et je comprends la lassitude, mais une énième prise de conscience, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se préoccuper de ce qui se passe dans notre maison, on va dire, dans le pré-carré dont on est responsable. Donc, bon, voilà pour la petite partie sur les conséquences de ces événements aux États-Unis, de ces émeutes aux États-Unis. Une des sociétés qui a décidé de ne pas décaler sa présentation, c'est Bungie, avec la présentation de Destiny 2 Year 4, qui sera faite le 9 juin. Alors évidemment, ça n'intéresse que ceux qui ont un pied dans Destiny, et... Vous voyez, ce qui est pratique, c'est que quand on est plusieurs dans l'émission, je peux profiter du moment où d'autres parlent pour boire un petit coup et me réhydrater la gorge. Quand je suis tout seul, c'est pas facile. D'ailleurs, certaines mauvaises langues diront peut-être, potentiellement, que si je donne la parole aux autres, si je m'interromps pendant, 30 secondes maximum toutes les 15 minutes, c'est uniquement pour avoir le temps de boire. Certains le diront peut-être. Évidemment, c'est totalement faux. Mais bon. Donc, Destiny 2, la 4e année de Destiny 2, donc l'extension qui va sans doute arriver à la rentrée. Et moi, j'ai, on va dire, toujours, peut-être pas un pied, mais un orteil dans Destiny. Parfois, j'y replonge, je replonge un peu dans le bain. Toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Donc, je suis forcément excité de savoir ce qui va se passer, de ce qui va se passer pour l'année prochaine. Mais ça sera le 9 juin, dans quelques jours à peine. On en reparlera dans le prochain épisode, j'en suis sûr. Donc, ça, c'est pour la société qui, pour le moment, a annoncé qu'il ne décalait pas, ou en tout cas, ils ne semblent pas décaler leur présentation, mais on avait quand même quelques petites informations sur la PlayStation 5 et, à vrai dire, la Xbox Series X. Et ce qu'on a entendu en amont de la présentation que devait faire Sony aujourd'hui, c'est il y a deux choses. D'une part, selon Sony, la fabrication des PlayStation 5 est encore dans les rails, donc il ne devrait pas y avoir de retard pour la sortie nulle part dans le monde. Il continue à dire que c'est une sortie globale, donc ça confirme une chose qu'on entendait il y a... Attendez, je vais déplacer un petit peu le micro, hop. Qu'il disait déjà il y a quelques semaines, la pandémie n'affecte pas leur capacité de production. Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la pandémie est encore là. C'est bref. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour la sortie des nouvelles consoles. Vous savez, à chaque fois que je dis des trucs comme ça, c'est un petit peu bizarre parce que je suis en même temps, évidemment, sur Twitter et je regarde les informations et tout. Et j'ai du mal à parler de ces choses-là sans... J'ai l'impression que ça brûle dehors et que je suis dans mon petit bureau avec mon micro en train de parler de jeux vidéo. Mais bon, je sais qu'il y a un petit peu d'effet de loupe déformante là-dedans, mais quand même. Bref, continuons. Donc, la console sortira bien cet automne si tout va bien. Et il y a un autre élément d'information. Disons que dans les éléments de langage qu'ils utilisaient, c'est notamment, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire de qui il s'agissait, mais il y a une interview, je veux dire Jim Ryan, c'est pas lui, je ne sais pas si c'est lui. Bref, il y a donc une intention de faire compter les générations. Donc ils ont réinsisté sur le fait que dans une approche opposée ou parallèle à celle de Microsoft, ils veulent vraiment avoir des générations qui sont différenciées et que les jeux de la génération suivante profitent des capacités d'une console bien différente. Alors évidemment, c'est pas une attaque de ma part contre Microsoft, c'est deux philosophies très différentes, et celle de Microsoft, avec son approche très service et Game Pass, a ses avantages aussi, on l'a suffisamment dit cette année et l'année précédente, mais c'est l'avantage de l'aspect générationnel est pour moi également à ne pas négliger, parce que j'espère que ça nous permettra d'avoir des choses vraiment intéressantes sur PlayStation 5. L'autre élément qu'on a entendu, c'est la question de la rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité des jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5 sera, on va dire, travaillée au cas par cas, plus ou moins, avec plus ou moins de facilité pour les jeux jusqu'à maintenant. Mais à partir de juillet, les jeux qui sortiront sur PlayStation 4 devront automatiquement jouer sur PlayStation 5. Alors, c'est juste une étape, hein. Ça veut dire qu'il faut respecter un certain nombre de spécifications et de manières de faire, mais c'est bon à savoir, tous les jeux qui sortiront sur PS4 à partir de juillet, disons qui sortiront, qui seront validés par Sony à partir de juillet, seront compatibles PS5 sans aucun travail d'adaptation de Sony derrière, ni des développeurs eux-mêmes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en parallèle l'attitude et les déclarations de Microsoft à ce niveau. C'est les détails sur la rétrocompatibilité sur série X. Eh ben, les jeux, la plupart des jeux, auront automatiquement un ajout de bénéfice de la puissance accrue de la nouvelle console, à savoir, ils ajouteront... Alors, plus de, une fréquence plus élevée, 120 FPS, c'est pas si étonnant que ça. Il faut avoir une télé qui peut, mais il n'empêche, on va dire, ça va monter au moins à 60 FPS. Là où c'est plus surprenant, c'est le HDR. Donc, il y a tous des systèmes très compliqués. Je suis sûr qu'il y a, je sais pas, du machine learning, qu'est-ce qu'on peut dire comme buzzword, comme mot qui buzz en plus, des crypto-monnaies et de la blockchain. Non, bon, je plaisante, mais effectivement, il y aura un ajout de HDR, donc une manipulation des couleurs de l'image pour créer une profondeur colorimétrique plus importante, ce qui est un bénéfice évident pour les jeux qu'on a déjà depuis un moment. Et ça, c'est évidemment très très cool. Alors, il y avait déjà sur Xbox One X des éléments de ça, et les jeux profitaient automatiquement de... c'est un petit peu une sorte de boost par la nouvelle console. La PlayStation 4 Pro le faisait, on va dire, beaucoup moins bien, beaucoup plus timidement, mais c'est une bonne nouvelle d'entendre que c'est... sur série X, ça sera bien géré. J'ajoute aux nouvelles Microsoft et Xbox l'arrivée du nouveau store Xbox qui a été, on va dire, leaké par des petits malins qui ont réussi à installer sur Windows la nouvelle version du store. Je remercie notamment Kassim de Frandroid, notre ami de la communauté, qui a fait un petit papier très bien fait qui résume tout ça, en fait, parce que les informations étaient très disparates et très difficiles à comprendre. Et effectivement, ce dont il s'agit, bah, c'est un nouveau store, un nouveau look qui donne peut-être d'ailleurs des indications sur ce que pourrait être l'interface utilisateur de la série X, qui serait donc assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec des codes graphiques qui ne s'en éloignent pas trop, mais une philosophie d'interface qui est quand même... Comment dire mon impression était que, jusqu'à maintenant, on était, chez Microsoft, très influencé par une sorte d'héritage, d'essai un peu raté, pour Windows au début des années 2000, pour faire l'équivalent de Windows Mobile, des Live Tile, de tout ça, même si ça a disparu, on est encore un petit peu dans cette mouvance et peu à peu, ils sont en train de s'en éloigner. Là, le design du nouveau store, dont le nom de code est Mercury, est pensé à la base pour une interface un peu plus moderne, un peu plus fluide et... c'est évidemment bénéfique. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans la pratique, parce que là, c'est pas encore complètement fini, c'est encore en développement. Et puis surtout, j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour l'interface de la nouvelle console également. Donc voilà pour la partie sur les gros, les annonces Sony et Microsoft. Je voudrais mentionner un petit truc sur un débat qui a lieu autour de la nouvelle version de Trackmania que va sortir Ubisoft. Trackmania, c'est un jeu vraiment très particulier avec une communauté très niche et spécifique. On a l'impression que Ubisoft cultive les grandes niches. Quand je dis niche, c'est pas forcément qu'il y a peu de joueurs, au contraire, mais ça veut dire que c'est des gens qui aiment, qui adorent tel jeu en particulier et qui sont peut-être plus sur ce jeu que sur d'autres, et même peut-être exclusivement sur ce jeu. Et tout, il y a plein de jeux comme ça, mais Ubisoft a l'air d'avoir une collection de ce type de jeux. Je pense à Trackmania, donc, à Rainbow Six Siege, à For Honor, il y en a peut-être deux d'autres auxquels je ne pense pas. Mais Trackmania, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de course qui permet de construire ses propres circuits, et puis qui demande de, essentiellement, faire aussi vite que possible le circuit. Bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent Trackmania, mais il y a une sorte de débat qui s'est lancé sur le prochain jeu, la prochaine version du jeu qui nécessite un abonnement. Et c'est un abonnement qui est... alors attendez, je vais ressortir les chiffres. C'est un abonnement, donc on a accès gratuit, mais très 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 limité au jeu. Et on a un abonnement qui est standard de 10 euros pour un an, ou l'abonnement, on va dire, club, qui est beaucoup plus évolué. On peut créer des skins, on a des campagnes, des ligues, etc., qui est à 30 euros pour un an. Ou alors, si on veut payer pour 3 ans, on a 60 euros. Et donc, ça s'adresse directement à cette communauté qui est très active, qui utilise énormément le jeu, mais qui, jusqu'à maintenant, les jeux Trackmania, si je ne m'abuse, il y avait peut-être des DLC, des trucs comme ça, mais c'était des jeux qu'on payait une fois. Et comme il y a une communauté qui est réduite sur le jeu, évidemment, Ubisoft, c'est pas le meilleur deal pour eux, parce que ça veut dire qu'ils vendent le jeu une fois, et puis ils doivent le maintenir pendant des années et des années, avec des difficultés à ramener de nouveaux joueurs. Donc ils se sont dit, on va passer au modèle par abonnement, ce qui a créé une polémique parce qu'ils ne veulent pas utiliser le terme abonnement. Ils présentent les choses de manière différente, ce qui est un petit peu artificiel, mais juste pour le principe, la manière dont ils présentent les choses, c'est qu'ils disent, nous c'est pas un abonnement, c'est une licence. Ils prennent modèle sur les licences de clubs de sport, par exemple. Si on veut aller au club de sport, eh ben, on peut payer une licence pour tant de temps. Et donc, ce n'est pas vraiment un abonnement. C'est qu'on a une licence, on peut y aller, on peut utiliser le matériel, on a plein de choses qu'on peut faire. Mais une fois que la licence est expirée, eh ben, on ne peut plus aller à notre club. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints, en lançant les arguments habituels du genre, alors c'est des arguments classiques hein, qui disent « Ah ben moi, je veux payer mon jeu, je l'ai pour toujours, pas pour tant de temps, donc c'est un abonnement. » Et il y a d'autres personnes qui disent par exemple « Si je paye tant de temps pour 3 ans, je pourrais jouer à un autre jeu sans jamais avoir à repayer. Donc, c'est scandaleux. » Et pour moi, la question de est-ce que c'est ou pas un abonnement, finalement, est-ce qu'on l'appelle ou pas un abonnement, ça n'a pas vraiment d'importance. Je crois que oui, c'est un abonnement, c'est une licence, c'est un petit peu deux mots différents pour un même service qui est proposé. Ce que je dirais également, c'est que si quelqu'un est dans le camp... Je comprends que si on est dans cette communauté et qu'on adore Trackmania, on peut se sentir un petit peu frustré. Mais si vous avez une alternative, comme le disent certains, et que vous pouvez payer tel truc et l'avoir pour toujours, et que c'est un jeu qui vous convient, bah, faut aller par là. Vous pouvez faire ce choix. Je veux dire, on est libre de choisir quel type de modèle on va soutenir. Si vous préférez quand même payer 60 euros pour 3 ans pour Trackmania, j'imagine que c'est parce qu'il y a dans les services offerts par Trackmania des avantages que d'autres n'offrent pas. Donc, et si c'est financièrement, enfin, il y a un équilibre qui va se trouver, mais en gros, un abonnement ou une licence de 60 euros pour 3 ans, pour avoir toutes les fonctionnalités du truc, ne me semble pas incroyablement cher payé. Ce sont des jeux dont certains, auxquels les utilisateurs jouent tous les jours. Alors, évidemment, si c'est juste le jeu et que plus rien n'arrive et qu'il est en l'état pendant 3 ans, je suis sûr que ça n'intéressera pas les gens. Mais si c'est un jeu live qui va vous permettre d'avoir énormément de mises à jour, bah, 60 euros pour 3 ans, 20 euros par an, ça fait moins de 2 euros du mois. Si c'est pour y passer plusieurs heures par semaine, j'ai pas l'impression que ça soit cher payé, surtout quand on voit les pratiques qu'on peut avoir ailleurs avec les season pass mensuels ou bimensuels, des microtransactions en plus, cosmétiques ou non. Bon, s'il y a un combat à voir, j'ai l'impression que c'est pas vraiment sur ce jeu-là qu'il faut l'avoir. Mais bon, qui sait, peut-être que je me trompe. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour me donner l'occasion de vous parler de quoi ? De Patreon. De Patreon, c'est quoi Patreon ? Eh bien, Patreon, c'est le service qui permet de faire en sorte que cette émission que vous écoutez aujourd'hui existe, parce que ça permet à des auditeurs de la soutenir financièrement. Alors, vous vous reconnaissez, hein, vous écoutez, et non, vous ne vous écoutez pas, vous ne m'entendez pas parler de vous, parce que non seulement vous pouvez soutenir l'émission financièrement quand si vous l'appréciez, mais en plus, ça vous permet d'avoir le flux sans pub et sans cette promo au milieu de l'épisode, donc un flux un peu plus clean, avec d'autres bonus auxquels vous pouvez avoir accès quand vous soutenez l'émission. Donc, c'est pour moi un élément essentiel pour me permettre de vous proposer ce service. Enfin, ce service, cette émission, que j'espère vous appréciez et que vous écoutez depuis longtemps. Et en plus, j'espère que pour ceux qui le font, c'est un petit peu une fierté de se dire que, bah oui, un produit que j'aime bien, un truc de qualité, eh ben, je vais donner le prix d'un petit café, d'un petit croissant à Patrick, voilà, qui va bien bosser et qui va proposer cette émission bien réalisée, sympathique. En tout cas, c'est le but. Donc, si ça vous plaît, pensez à aller sur patreon.com/rdvjeu. Ça prend 2 minutes. Vous pouvez le faire soit maintenant sur votre téléphone mobile, vraiment, je plaisante pas, hein. Vous pouvez lancer votre téléphone mobile, le navigateur, aller sur patreon.com/rdvjeu, vous avez même le lien dans les notes de l'émission, donc vous cliquez dessus et vous pouvez lancer l'abonnement là tout de suite, si vous le souhaitez, ou alors si vous arrivez chez vous un petit peu plus tard, bah, comme je le dis dans toutes les émissions, quand vous mettez les clés dans le bol à l'entrée, ça fait cling, et là vous dites « Ah ouais, fallait que je soutienne Patrick !» Eh ben, vous pouvez aller à votre ordinateur et le faire à ce moment, ou alors sur votre smartphone maintenant. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est grâce à ceux qui font ce geste, ce petit geste, mais ce geste qui compte, que cette émission peut exister. Donc, un grand, grand merci à eux tous, et puis j'espère que vous considérerez l'idée de devenir vous aussi patriote. patreon.com/rdvjeu.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alors parlons un petit peu. Alors première chose, Patrick boit un coup. Ah, c'est de l'eau, hein. Je ne bois pas en travaillant. Et en plus, j'aime pas la bière. Ouais, je sais, l'image est complètement détruite là. J'aime pas la bière. Je sens qu'il y en a quelques-uns qui ont immédiatement arrêté l'écoute de l'émission. Donc, pour ceux qui restent, j'ai joué à quelques jeux et ces derniers jours, et notamment Iron Man VR. Et ben, vous savez quoi ? Iron Man VR, donc le jeu de réalité virtuelle où on joue Iron Man. J'ai fait la démo, hein, pas le jeu complète, mais vous allez voir, c'est important pour la suite. Et ben, c'est vachement bien. C'est marrant parce que j'ai essayé beaucoup de jeux en réalité virtuelle ces dernières années. Et j'ai rarement été vraiment convaincu, en fait. J'ai souvent été, même sur des gros jeux comme Half-Life Alyx, je me suis dit, ouais, ok, bon, ok, ça va, c'est sympa. Et le fait de jouer à Iron Man VR, ça m'a rappelé ce que j'avais fait au tout début avec mes premières expériences de réalité virtuelle sur PSVR, et notamment Arkham VR, c'était l'un des Arkham, qui était donc une expérience de 2-3 heures, qui m'avait fait parler de ce moment waouh, où on se dit, ah mais en fait on est dans un autre endroit, quoi. Et je m'étais baladé dans les zones du Arkham VR et approché du modèle du Joker, regardé dans les yeux juste à côté, c'était un moment magique. Et ben là, Iron Man, ça a un petit peu recréé ça. On met le costume d'Iron Man et on se met à voler, et il n'y a aucun moment j'ai eu le moindre effet cinétose, le moindre mal de mer ou mal de l'air. Et ça fonctionne super bien. Je ne vais pas vous le spoiler parce que la démo est gratuite, il n'y a pas de raison de ne pas la faire. Il y a des moments vraiment où on se dit « Waouh, là je suis Iron Man !» C'est le fantasme de la réalité virtuelle, la magie de la réalité virtuelle qui fonctionne. Ceci dit... et c'est là, c'est important que... Pourquoi, c'est important que je dise que la démo... C'est à la démo que j'ai joué et pas au jeu complet, parce que j'ai pas l'intention d'acheter le jeu complet. Et donc évidemment, tous mes compliments sont limités, parce que malgré ça, c'est un truc qui reste un petit peu gimmicky. J'ai pas envie de passer, même 5 heures, si le jeu dure 5 heures, j'ai pas envie de passer 5 heures à faire « Ah oh bah je tire avec les répulseurs, je vole avec les réacteurs dans les airs, mais... » Au final, ça fait un petit peu galerie de tir. C'est une super expérience, mais c'est encore une fois une super expérience comme on peut en avoir dans un parc d'attractions. Ça dure 5-10 minutes, mais on n'a pas envie de passer 5-10 heures dessus, quoi. Bah là, c'est un peu cette impression. Alors peut-être qu'il y a dans le jeu complet des choses qui renouvellent l'intérêt, c'est tout à fait possible. J'ai pas eu l'impression que ça soit les retours qu'on a eu du truc, je crois pas qu'il soit... Est-ce qu'il est sorti déjà? Je sais même pas. La démo est dispo, mais bon. Peut-être qu'on pourra me faire changer d'avis, mais pour la demi-heure que j'ai passée dans la démo, j'ai été rassasié, on va dire. Et c'est marrant parce que je la recommande vraiment. Si vous avez un PSVR, rebranchez-le, essayez la démo, vous passerez un super moment. Mais je ne suis pas sûr que le jeu complet vaille le coup, non pas pour une question de prix ou quoi que ce soit. Juste que 4 heures à faire ça, c'est un peu long, quoi. Alors, j'ai joué aussi à d'autres jeux. J'ai joué notamment à Minecraft Dungeons, qui est sur le Game Pass, pour lequel j'avais, comme beaucoup d'autres, bon espoir que ça soit un bon Diablo-like, un hack and slash sympathique. Et j'ai été passablement déçu. Passablement déçu parce que j'ai eu du mal à mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles ça ne me plaisait pas. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre, j'ai pas son nom, je suis désolé, c'est sans doute c'est une erreur de ma part, mais je suis sûr qu'il se reconnaîtra parce que on a passé avec quelques personnes un bien bon moment ces derniers temps. Je reste cryptique parce que c'est pas quelque chose que je veux lancer encore complètement de manière publique, mais et la personne disait ça peut être interprété de mille manières, ce que je viens de dire. La personne disait donc, le feeling des coups spéciaux est mauvais dans Minecraft Dungeons. Et c'est vrai, en fait, c'est exactement ça. Je suis désolé de ne pas avoir retenu ton nom, mon ami, mais c'est exactement ça. Le feeling et le jeu, en fait, est monotone parce que c'est... Alors, je n'ai pas joué énormément. Hein. Pour tous ces jeux dont je vais vous parler, j'ai joué peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Mais même pas. Allez, 1 heure et demie. Donc, c'est vraiment mes impressions que je vous livre sur un tout petit essai. Et Dieu sait que parfois, j'ai testé des jeux 1 heure, j'ai détesté. Et puis, au final, il s'est trouvé que j'ai adoré quand j'ai insisté. Je n'ai pas l'impression que sur Minecraft Dungeons, ça serait le cas. Mais le jeu donc est monotone. Il coche toutes les cases d'un hack and slash, mais les cases très froides, de manière très froide, de manière très théorique. C'est pas désagréable à jouer, mais c'est pas non plus suffisamment. Ça nous donne pas de petits boosts d'adrénaline quand on lance notre coup spécial pour nous donner envie de vouloir le relancer dans 30 secondes. C'est juste qu'il y a plein d'ennemis, bah on les tape, et puis tout est plat en fait. La courbe des émotions est plate. Alors, une fois ceci dit, il faut quand même dire deux choses. D'une part, il coûte 20 euros, donc bon, oui, ça peut vouloir dire que pour le prix, c'est peut-être plus intéressant qu'un jeu à 60 euros, évidemment. Et d'autre part, c'est quand même un hack and slash qu'il est tout à fait possible de tester avec ses enfants. Et c'est peut-être là qu'est le marché de Minecraft Dungeons. C'est un jeu qui est accessible, même aux plus jeunes, qui seraient séduits par Minecraft à la base. Et donc, parce que les hack and slash, c'est quand même... bon, entre Diablo, même si certains disent que c'est un arc-en-ciel le 3, bah, enfin non, je suis désolé, c'est quand même assez... on va dire, c'est pas fait pour les enfants, mais même tous les clones de Diablo, que ça soit Path of Exile, Wolfen, enfin tous... ils sont quand même pas particulièrement kid-friendly, on va dire. Donc, celui-là, peut-être qu'avec les enfants, ça peut faire passer de très bons moments. Moi, ce que je dirais, c'est que je crains qu'ils s'emmerdent et du coup qu'ils n'aiment pas. Mais qui sait, peut-être qu'il y a tellement de mécaniques compliquées. Et même dans Minecraft Dungeons, hein, c'est pas super simple comme jeu non plus. C'est simple pour un hack and slash, mais c'est pas non plus un jeu facile. Il y a des éléments d'interface, il y a des objets à upgrader, il y a des trucs qu'on peut recycler. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Il y a des pets, il y a plein de choses. Et donc, c'est un jeu dont je crains que ça ne... ouais, que ça plaise pas forcément aux enfants sur le long terme, parce que c'est un peu plat. Mais bon, ça a quand même cet avantage. Deux autres jeux auxquels j'ai joué, un petit peu, Valorant, qui malheureusement, pour moi, correspond exactement à ce que je pensais, c'est-à-dire un jeu pas pour moi. Alors Valorant, c'est le FPS de Riot. C'est une très 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 largement inspiré, pour ne pas dire une copie exacte, de Counter-Strike. Et déjà, Counter-Strike, ça n'a jamais été mon truc. Et donc, les mécaniques de gameplay, je m'y intéresse particulièrement parce que je suis, comme vous le savez, très très fan d'Overwatch. Et je me rends compte à quel point ce qui me plaît dans Overwatch n'est pas du tout ce qu'il y a dans Valorant. Dans Overwatch... on a plein de capacités qui font qu'un personnage est immédiatement fun à jouer. Alors, il y en a peut-être qui plaisent plus ou moins, mais c'est immédiatement super sympa à jouer. Les personnages ont une personnalité vraiment incroyable. Sur Valorant, il y a des enregistrements de voix qui donnent un petit peu de personnalité, mais au-delà de ça, les animations... les personnages sont tous les mêmes, ils se ressemblent tous. Les animations... c'est... quand on marche, on a l'impression qu'ils glissent sur un tapis roulant... Les animations des mains quand ils font leurs coups spéciaux, oui, mais c'est tout. Tout le reste, c'est vraiment, vraiment Counter-Strike super basique. Alors évidemment, ça a des avantages. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout le même type de jeu. CS et Valorant, c'est très, très compétitif, c'est tryhard. Il y a même quelques moments où j'ai fait quelques trucs cool, où j'ai fait des clutches qui m'ont particulièrement plu. C'était genre, waouh, j'ai réussi à faire un truc. C'était genre une fois en une heure. Mais je crois que parmi tous les jeux, c'est le genre de jeu où je devrais me plonger pendant des heures et des heures avant de commencer à en tirer le plaisir. Ou alors à jouer en groupe. Peut-être que ça arrivera. Il y a des gens qui me l'ont proposé. Et peut-être qu'on le fera. Et peut-être que ça me fera apprécier plus le jeu plus vite. Mais c'est, a priori, c'est pas mon truc parce que c'est juste pas mon truc. Pour ce qu'il veut faire, il le fait très très bien. Et il y a plein de gens qui adorent. Donc... C'est quand même une expérience intéressante. J'y reviendrai peut-être à un moment, mais à ce stade, je me dis, bah, ça correspond à ce que j'imaginais. Un jeu qui ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais, c'est Total War Warhammer 2. Là encore, j'ai fait genre deux missions, mais je suis arrivé dessus en me disant, bon, Total War, jeu de gestion, c'est pas mon truc. Jeu de stratégie, c'est pas mon truc. En plus, j'ai jamais joué à un Total War. Les RTS, j'ai dû jouer à StarCraft 2 genre pendant quelques mois et c'est tout. Et donc, j'y partais, pas à reculons, mais j'y partais en me disant « bah, ça ne va pas être pour moi », un peu comme Valorant. Et en fait, malgré l'aridité de certains aspects du jeu, la complexité apparente, eh ben, le fait de rentrer dans une bataille quand on a passé les temps de chargement qui durent à peu près, selon mon compte scientifique, 14 heures, donc on a passé les temps de chargement, j'ai mis le jeu sur mon SSD. Hein. Certains qui ont suivi le truc seront heureux d'apprendre ça. J'ai mis le jeu sur mon SSD parce que les temps de chargement, c'est juste pas possible. Donc après qu'on ait passé les temps de chargement, on se retrouve sur le champ de bataille avec toutes nos armées qui y vont en temps réel et on peut zoomer out pour avoir une vue de tout le champ de bataille et puis arriver jusqu'au niveau... je ne sais pas, au niveau des personnages qui se battent entre eux. Enfin, c'est un vieux fantasme des jeux de stratégie, de se dire « je vais avoir une représentation détaillée jusqu'à l'unité près de ce qui se passe dans la bataille, de ce qui se passe dans le combat ». Et alors, c'est certainement pas nouveau pour les gens qui connaissent les Total War et d'autres jeux de ce type depuis longtemps, mais moi, j'y avais jamais vraiment mis les pieds. Et là, le fait d'avoir cette représentation, de pouvoir zoomer jusqu'à le combat dans un coin de la bataille entre trois cavaliers et des perches et des archers un petit peu plus loin, et les cavaliers vont charger et rentrer dans le tas, ça va envoyer balader les soldats, il y a quelque chose d'incroyable. C'est pas juste que c'est bien fait ou que c'est beau ou Dieu sait quoi, c'est quelque chose de... Peut-être que c'est pour moi qui ai l'habitude de jeux vidéo d'un autre âge également, qui ai grandi avec les capacités du jeu vidéo, mais le fait que ça soit possible d'avoir ça, c'est magique. Donc j'ai passé un super bon moment sur Total War Warhammer 2. Je vais y rejouer certainement un petit peu. Je ne sais pas si tout à coup je vais devenir le plus grand fan des jeux de stratégie, mais c'était vraiment un bon moment et je ne m'y attendais pas du tout. Donc comme quoi il faut parfois se faire un tout petit peu violence et tester des trucs auxquels on n'était pas forcément, dont on pensait qu'on ne serait pas forcément client. Voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. On va conclure avec quelques petites news, notamment Nvidia qui a annoncé que pour le GeForce Now, eh ben, il n'aurait désormais que des jeux dont les éditeurs ont accepté d'être sur le service. C'est un petit peu une conclusion à la grande aventure du GeForce Now, qui avait tous les jeux, tous les éditeurs, sans leur demander leur autorisation. Je ne vais pas revenir sur le « est-ce qu'ils devraient demander des autorisations ou pas ?» À quel point GeForce Now est différent de Shadow, l'interface, la manipulation des données, de l'expérience utilisateur, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ont environ 200 éditeurs qui sont OK pour être sur le service. Évidemment, c'est pas les plus gros qui, on l'imagine, eux, préparent leur arrivée sur d'autres services peut-être un petit peu plus grand public, ou peut-être même créer les leurs. Et donc, ça fait forcément que le service chez Force Now est beaucoup moins intéressant. Bon, c'est une conclusion à laquelle on pouvait s'attendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant du tout, mais c'est pas ce qu'on avait vu au tout début quand ils l'ont lancé publiquement. Sega a fait une annonce intéressante, et je ne parle pas de la Game Gear Micro, qui est... Moi, j'ai cru que c'était un troll. Quatre Game Gear qui tiennent... Bon, qui sont plus petites que la paume de votre main. C'est-à-dire que si vous la posez dans votre main, la console est moins large que la largeur de la paume de votre main. Et ils vendent, si vous achetez les quatre, parce que chacune d'entre elles, chacune des couleurs a des jeux différents, si vous achetez les quatre, vous avez une loupe aussi pour jouer avec. Alors franchement... Bon, c'est pour la blague, j'ai cru que c'était un troll. Il semblerait que ça soit uniquement au Japon, parce que bon, peut-être qu'ils aiment encore plus la Game Gear là-bas qu'ici, mais bref, c'est pas de ça que je veux parler. Je sais même plus quand ça sera disponible, mais dans l'été, j'imagine. Ce dont je veux parler, c'est le nouveau service de Sega, qui est une sorte de service de Fog Gaming, sur lequel on n'a que des rumeurs. Il y a un journaliste de Famitsu qui a publié des rumeurs sur la chose, qui sont hyper intéressantes. En fait, ça serait un service de cloud gaming qui serait pour les salles d'arcade. Et j'avoue que je suis pas sûr d'avoir exactement compris comment ça marche. J'ai l'impression que c'est dans les deux sens. Parce que d'une part, il y a du cloud gaming. Alors, le Japon est très bien connecté. Les salles d'arcade, en particulier, sont très bien connectées parce que ça fait longtemps qu'ils ont des services en ligne sur les salles d'arcade et qu'on peut jouer soit avec la personne qui est sur la machine d'en face, soit en ligne. Et donc, bon, en plus de ça, il y a des salles d'arcade au Japon, moins, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore. Et donc, l'idée, ça serait, en théorie, que Sega propose un service de cloud gaming ou de fog gaming, parce que le fog, c'est pas en haut dans les nuages, c'est partout autour de nous, qui permettrait d'une part d'avoir des machines d'arcade qui utilisent leur processeur pour réduire le lag. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça permettrait de réduire les coûts du service et de réduire le lag. Et d'autre part, et c'est là que je suis pas sûr de bien comprendre, l'une des autres idées, c'est que ils utiliseraient, ça permet aux opérateurs de salles d'arcade d'utiliser, de faire de l'argent en dehors des heures où ils sont ouverts. Alors, ce que ça veut dire pour moi, c'est que, du coup, ils utilisent la puissance des machines d'arcade pour streamer des jeux ou aider à relayer des calculs pour des jeux. Disons que ça serait hyper intéressant. Je ne sais pas si c'est exactement ça dont il s'agit, mais ça permettrait, par exemple, à Sega de se constituer un réseau décentralisé ou distribué de plein de machines et de plein de, entre guillemets, serveurs qui seraient aussi dans les salles d'arcade pour alimenter les utilisateurs d'un service Sega de streaming. De cette manière, ils n'auraient pas vraiment besoin d'avoir des grands centres de données dans le Japon, mais ils pourraient utiliser la puissance des machines qui sont, quand elles ne sont pas utilisées ou quand les salles d'arcade sont fermées, pour créer ce réseau de cloud gaming. Et c'est vraiment une idée intrigante parce que c'est une manière de faire les choses qui court-circuite l'importance des énormes centres de données pour ces services, qui veut dire que on ne peut avoir ce type de service que de la part de géants comme Google, Microsoft, Amazon ou à la limite Facebook. Et vraiment, il n'y avait que 4 opérateurs qui pourraient faire ça jusqu'à maintenant. Mais là, si cette idée peut techniquement être réalisée, parce que je suis sûr qu'il y a des handicaps significatifs au niveau technique, mais si ça peut être réalisé, ça peut dire qu'il pourrait y avoir des moyens de distribuer les machines qui calculeraient, qui enverraient les images. Alors, la situation des salles d'arcade est un petit peu idéale et un peu spécifique, un peu particulière au Japon. Je ne sais pas si ça pourrait être appliqué à d'autres contextes, mais si c'est le cas, ça pourrait vraiment changer la donne dans le marché naissant du cloud gaming. Et cette idée, cette technologie que serait en train de mettre en place Sega ou serait prête à présenter Sega pourrait changer beaucoup de choses. Donc super intéressant à voir quand ça sera effectivement annoncé. Ça n'est encore à l'état que de rumeur jusqu'ici. Alors, un petit peu d'autres sujets. On a Total War, comment il s'appelle ? Total War 3, c'est ça ? Qui va être gratuit pendant 24 heures sur l'Epic Game Store le 13 août. Donc marqué, c'est le nouveau Total War, hein, et entièrement nouveau, il va être gratuit pendant 24 heures chez Epic. Donc marquez vos calendriers, le 13 août, il faudra passer sur l'Epic Game Store pour télécharger et garder à toujours, pour toujours, vous avez la licence du nouveau Total War. No Man's Sky arrive sur Xbox Game Pass ce mois-ci. C'est intéressant à noter parce qu'évidemment No Man's Sky avait été une grande exclusivité PlayStation pendant un bon moment. Donc voilà, il est également sur le Game Pass. Street Fighter V va recevoir un cinquième Season Pass pour des nouveaux personnages. C'était pas gagné parce que Street Fighter V semblait être sur la fin. On n'était pas sûr qu'il y ait un nouveau Season Pass. Et bien, il y en aura un. Et moi, évidemment, ça commence à me faire penser à ce qui peut se passer à l'avenir. Qui dit Street Fighter V, qui est sorti quoi, en 2016, je crois, on se dit, bah, ils ont réussi à tenir la route quand même pendant 4 ans ou 5 ans avec Street Fighter V. C'était pas gagné parce qu'il a été lancé dans un état tellement catastrophique qu'on aurait pu se dire, bah, ils tournent la page et ils avancent. Et maintenant, ils ont persévéré avec le 5, qui est toujours qui a ses défauts, mais qui est quand même un bon jeu. Et du coup, ça m'amène à la dernière partie de cet épisode, où on se prend à rêver un petit peu des jeux qu'on aimerait voir annoncés, avec notamment la présentation de la PlayStation 5, mais peut-être d'autres présentations à venir aussi. C'est une question que je vous ai posée sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à venir me suivre sur Instagram, Twitter, etc. Mais quel jeu est-ce que vous aimeriez voir annoncé ? Moi, je pense évidemment à Street Fighter 6, Tekken 8. J'adore. Je repars du côté des jeux de combat, évidemment, mais Tekken 8, King of Fighters 15. Qu'est-ce que ça pourrait être, King of Fighters, après leur réentrée sur le marché avec le 14, qui était sympathique, mais qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et je notais que, oui, évidemment, c'est des suites, mais on entend souvent les gens dire « Ah, on s'en fout des suites, nous, on veut des trucs originaux. Pourquoi les gens ne demandent jamais des trucs originaux ?» Le problème, c'est que les trucs originaux, les trucs nouveaux, ben, on ne les connaît pas encore, par nature. C'est en fait, c'est marrant parce que c'est une réaction qui trouve son explication dans la nature de la question qu'on pose. Si on dit « Pourquoi vous êtes excité ?» On ne peut pas être excité pour des trucs qu'on n'a pas encore vus. Donc forcément, on parle toujours de suites. C'est parce que c'est des trucs, même pour les trucs qui ont des trailers, généralement on est excité pour des trucs qui nous parlent un petit peu. Les gens qui vont me parler de Elden Ring, ils sont excités parce que c'est dans la saga des Soulsborne. Donc évidemment qu'on est excité pour des trucs qu'on connaît déjà, et donc on demande des suites, mais on ne demande qu'à être surpris et forcément intrigué par ce qu'ils peuvent nous présenter de nouveau également, ça va sans dire. Mais donc, vous avez répondu. Alors, il y a au-delà des trucs classiques, on attend le Spider-Man 2. Ça, j'y crois pas vraiment pour la présentation, mais peut-être le fameux Horizon Zero Dawn 2 qui pourrait peut-être arriver, ça serait cool. Project L, le jeu de combat de Riot, oui, bien sûr. Alors, Valorant, ça m'a un peu refroidi dessus. C'est Yann, notre ami Yann Allais, qui disait ça. Mais il n'empêche, je ne suis pas fan de CS. Donc, forcément, Valorant, ça me parle moins. Je suis très fan de jeux de combat. Donc, ouais, Project L, pourquoi pas. Le jeu de combat de Riot, ça pourrait être un truc qui serait cool à être présenté. Cassim, encore lui, nous dit Final Fantasy 16. Oh, c'est vrai que le 15 est sorti il y a un moment, en fait. Silent Hill, Ratchet & Clank 2, bon, je vous avoue que ces deux-là, je suis... Silent Hill, j'attends de voir. J'attends vraiment de voir, parce que ça fait trop longtemps, on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Ratchet & Clank 2, moi, je n'étais pas fan du 1, mais bon, pourquoi pas. Ça serait un bon titre de sortie de console. Nico dit Silent Hill et Horizon One Dawn, merci de la référence que j'avais donnée la dernière fois. Il y a plein de jeux qui pourraient rentrer dans cette catégorie. Fox McFly dit un truc intéressant. FF7 Remake Part 2. Alors évidemment, je crois que on rêve là. Ça va pas arriver, mais peut-être. En même temps, ça va pas arriver, mais si ça arrive. Peut-être, ça serait cool aussi, oui. Alors peut-être qu'ils pourraient l'annoncer, moi je pense à la fenêtre de sortie, donc on va dire dans les 6 mois après la sortie. Je doute que FF Remake Part 2 sorte dans un an, donc non. Mais... bon, non, soyons sérieux. Quoi d'autre ? Steve X nous dit Gran Turismo 7. On a déjà passé le 6 ? Je ne sais même plus, c'était le concept sport, le dernier. Gran Turismo Sport, ouais, le dernier. C'est vrai que ça peut jouer aussi. Il y a GTA, si on parle de GTA 6. Je ne crois pas qu'ils le sortiront là avec les nouvelles consoles. J'y crois pas. Mais bon. Quoi d'autre que je regarde les réponses ? Bloodborne 2. Yes, papa, oui, ça pourrait peut-être. C'est l'une des grosses forces de Sony sur cette génération. C'était l'exclusivité Bloodborne. Il est tout à fait possible que Bloodborne 2 pointe le bout de son nez à un moment. Et c'est un jeu qui n'est pas si cher. C'est un bon jeu d'appel, quoi, pour attirer certains joueurs. C'est pas un jeu qui est si cher qu'ils doivent absolument attendre une base installée énorme pour le sortir. Mais c'est un jeu qui est un double A qui pourrait correspondre. Mistgun D dit un remake de Demon's Souls. C'est vrai qu'on l'oublie dans toutes ces histoires de Dark Souls. On l'oublie Demon's Souls, mais peut-être un remake, ça pourrait correspondre. Quoi d'autre? Un nouveau jeu Insomniac. Bon, je pense qu'ils sont occupés ailleurs, Insomniac. C'est aussi Miss Gunn qui dit ça. Vincent Boire dit un vrai Killzone, bien sombre, bourrin. Là encore, je pense qu'ils sont occupés à d'autres choses, mais pourquoi pas, peut-être, hein, c'est possible. Donc voilà, c'était un moment pour rêver, même si bah, maintenant il va falloir qu'on attende un petit peu avant de savoir ce que nous réservent ces événements. Et ça va être tout pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On a une période là sur les semaines à venir qui est un peu compliquée pour mon emploi du temps. Donc je ne sais pas exactement comment je vais réussir à organiser tous les podcasts et tout ce que je fais. J'espère que tout pourra se passer normalement, mais je ne suis pas convaincu que j'y arriverai. Donc s'il y a des petits ok, j'espère que vous m'en excuserez. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux, vous pouvez en être sûr. Écoutez, c'est la fin de l'épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, c'est un média très cool. Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également commenter sur frenchspin.fr, évidemment. Et surtout, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est évidemment dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes. Vous arrêtez quand vous voulez. Donc, si vous appréciez l'émission, je vous encourage à aller soutenir. Je vous fais 2 grosses bises. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans environ 2 semaines. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.